الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، nous sommes ce soir inshallah ta'ala le 30 Rabi' al-Awwal 1428, c'est-à-dire le 18 avril 2007. On va continuer, inshallah ta'ala, ce qu'on a commencé depuis longtemps, inshallah ta'ala. Et on va commencer par le chapitre « Ma kana yiqra'uhu sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam fi salawat »« Ma kana yiqra'uhu sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam fi salawat » Avant cela, je demanderai à quelqu'un s'il y a un son, le Seigneur m'attend. أخذلي فيه صوت ولا ما فيش صوت؟ سيدي إن شاء الله تعالى لسان في المكري آن سيدي أخوه جزاك الله خيرا. Donc le chapitre, ce que lisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses prières. وَأَمَّا مَا كَانَ يَقْرَأُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الصَّلَوَاتِ مِنَ الصُّوَرِ وَالْآيَاتِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَغَيْرِهَا وَهَكَ تَفْصِيلَ ذَلِكَ مُبْتَدِئِينَ فِي الصَّلَاةِ الْأُولَى مِنْ الْخَمْسِ. Quant aux sourates et aux versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récité en prière, cela variait suivant les différentes prières. Et nous allons, inshallah ta'ala, commencer par la première salat, qui est salat al-subh. Et ça s'appelle aussi salat al-fajr. Elle s'appelle aussi salat al-fajr. Mais j'entends ici par salat al-fajr, c'est-à-dire salat al-subh, celle qui est obligatoire et non pas la sunnah. Et non pas la sunnah de l'Fajr. Donc on commence, inshallah ta'ala, par salat al-subh. Kana sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u fiha bi tiwal al-mufassal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait pendant cette prière, qui est salat al-subh, récitait les longues sourates parmi les mufassal. Et les longues sourates ici, ce sont les 7 dernières sourates du Coran, commençant à partir de la sourate Al-Qaf. Non, c'est ça le Mufassal. Des 7 sourates commençant à partir de sourate Qaf. طيب وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل وكان أحيانا كان أحيانا de temps en temps il lisait الواقعة. De temps en temps, le prophète صلى الله عليه وسلم lisait الواقعة ونحوها من صور في ركعتين. Et il récitait aussi des sourates semblables dans les deux rak'ats. وقرأ صلى الله عليه وسلم سورة الطور وذلك في حجة الوداع. Et une fois pendant son pèlerinage d'adieu صلى الله عليه وسلم, il a récité سورة الطور, qui qu'il a récité, il a lu sourate Tur. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam ahyanan yaqra'u qaf al-Qur'an al-Majid wa nahwaha fi ar-rak'ah al-awla. Et parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait sourate Qaf ou bien une sourate équivalente pendant la première rak'ah. Pendant la première rak'ah. On est toujours donc à Salat al-Subh. Naam. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam ahyanan yaqra'u biqisar. Et parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Salat al-Subh récitait les courtes sourates du Mufassal. Comme par exemple quand le soleil sera obscurci. Idha ash-shamsu kuwirat. Wa qara'a marratan sallallahu alayhi wa sallam fi safar fi Salat al-Subh bi قل أعوذ عفوا وقرأ مرة وقرأ مرة ce n'est pas في السفر ce n'est pas dans le voyage قرأ مرة إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما حتى قال الراوي فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. Une fois le prophète صلى الله عليه وسلم a récité dans les deux rak'at de la prière du matin salat sobh, il a récité idazulzilat il azulzilala, c'est-à-dire quand la terre tremblera d'un violent tremblement. Il a fait ça dans la première rak'a du sobh et il a fait la même chose dans la deuxième rak'a du sobh, au point où le narrateur a dit je ne sais pas si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a oublié ou bien il a fait ça délibérément, il a fait ça exprès. C'est un hadith sahih. Non, c'est un hadith sahih qui est dans Abu Daoud. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois dans Salat Subh a lu surat Ida Zulzilatil Ardu Zilzalaha dans la première raka et il l'a relu dans la deuxième raka. Ce qui a fait étonner ce compagnon radiallahu ta'ala anhu au point de dire je ne sais pas si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a oublié, il l'a répété ou bien il l'a fait exprès. Et nous, c'est quoi? C'est de dire ici que le prophète Ali a oublié ou bien il l'a fait exprès. La règle, c'est de dire qu'il l'a fait exprès. Pourquoi? Pour nous apprendre, naam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il fait, c'est la sharia. Allah ta'ala qui lui dit de faire ainsi. Donc, celui qui a dit il a oublié, c'est lui qui doit faire venir un délit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour qu'il nous apprenne ce que Allah Ta'ala veut et pour qu'on le suive. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Donc on ne dit pas il a oublié, mais on dit jusqu'à preuve du contraire qu'il l'a fait exprès pour qu'on sache qu'il est possible de lire la même sourate dans les deux rak'at. قرأ مرة في السفر قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أو أبو داود بسند صحيح البيهقي. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'un voyage il a lu dans la première rak'at قل أعوذ برب الفلق, je cherche protection auprès d'Allah le Seigneur de l'aube naissante. Et dans la deuxième rak'at salat al-subh toujours il a lu قل أعوذ برب الناس, je cherche protection auprès d'Allah le Seigneur des hommes. وقال لعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه اقرأ في صلاتك المعوذتين فما تعوذ متعوذ بمثلهما رواه أبو داود وأحمد بسند صحيح. Une fois le prophète صلى الله عليه وسلم a dit au compagnon عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه, il lui a dit récite dans ta prière les معوذتين, c'est-à-dire qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Ensuite il lui a dit car personne en quête de refuge n'a cherché refuge par meilleur moyen qu'elle, que ces deux sourates. Naam, ces deux sourates qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas, il est très recommandé de les lire, de les dire. Naam. Wa kana ahyanan yaqra'u bi akthar min dhalik, et des fois bien sûr il disait Il récitait plus que cela, plus que cela. كان يقرأ 60 آية فأكثر. Il lisait des fois 60 versets ou plus. On parle toujours de Salat al-Sobh. Mais le narrateur a dit, je ne sais pas si c'était yani 60 versets, si c'était dans une rak'a. De temps en temps, écris-moi un. Pour que je sache que le son existe toujours. Naam. Et une fois, je disais, wa marra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallat subh bi Mecca, fastaftaha bi surat al-mu'minin. Et une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisait salat al-subh à Mecca, a commencé par réciter surat al-mu'minun. Surat al-mu'minun. Hatta ja'a ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أو ذكر عيسى jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit arrivé au passage où est mentionné Moussa et Harun ou bien Isa. Le narrateur n'était pas très sûr, est-ce que c'était le passage de Moussa et Harun ou bien le passage de Isa. Quoi qu'il en soit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à ce passage, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à tousser. Alors, il s'inclina, sallallahu alayhi wa sallam, et il fait le recours. Non. C'est-à-dire que quand on commence à tousser, si on est en train de lire, c'est de la sunna d'arrêter et de faire le recours. Non, d'arrêter et de faire le recours. Wa kana ahyanan ya'ummuhum fiha bisafat. بالصافات روى أحمد وأبو يعلى le prophète sallallahu alayhi wa sallam hadith sahih le prophète sallallahu alayhi wa sallam des fois aussi dans salat al-subh il est guidé avec surat al-fajr et aussi avec surat al-safat naam et c'était dans sa sunna sallallahu alayhi wa sallam d'allonger la première rak'at et de raccourcir la deuxième raka'a. Naam. Toujours dans la prière, quand on fait une prière, toujours on fait la deuxième moins courte que la première. On fait toujours la deuxième moins courte que la première. Et si on fait, si c'est une salat par exemple de 4 raka'at, comme le Zohr ou le Raf, si on fait les deux premières raka'at, yani on lit yani la même chose dans les deux premières, alors dans les deux dernières, on doit raccourcir. Alors dans les deux dernières, on doit raccourcir. Maintenant, on va voir ce que lisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna du Fajr. On a vu, maintenant, on venait de voir ce que lisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Sobh, c'est-à-dire dans la prière obligatoire. Barakallahu fik. Maintenant, on va voir ce que lisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna du Sobh, c'est-à-dire celle qui précède Salat al-Subh, la prière surérogatoire. Naam. Pour les deux rak'at sunnah surérogatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam kan salatuhu khafifa jiddan. Sa prière était très légère dans ces deux rak'at. Hatta inna Aisha radiyallahu ta'ala anha kanat taqul hal qara'a fihima fiha yani bi umm al-kitab. Naam. Ou le Bukhari ou Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il lisait dans la sunna du Salat al-Fajr, quand il lisait, yani, disons, il les faisait très légères et très courtes. Au point où notre mère, Aisha radiallahu ta'ala anha, a dit une fois, elle s'est demandé, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu le Fatiha ou ne l'a pas lu? Elle s'est étonnée, tellement la prière du Fajr, il la faisait d'une façon légère et courte. Pourquoi? Ou Aïcha radiallahu ta'ala anha s'est étonnée, elle s'est dit, est-ce qu'il a lu le Fatiha ou il ne l'a pas lu? Mais c'est pas la peine de me parler, est-ce qu'il a lu autre chose après le Fatiha? Déjà, le Fatiha, elle s'est étonnée. Elle a dit, je ne sais pas s'il a lu le Fatiha ou il ne l'a pas lu. Wa kana ahyanan yaqra'u ba'd al-Fatiha fi l'oula minhuma ayat قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا لآخر آية وفي قراءة يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخرها، رواه مسلم. نعم، le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois dans cette sunna de Fajr, la sunna du Fajr, parfois après avoir lu le Fatiha, il lisait le verset qui dit قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. Dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé jusqu'à la fin du verset. Un verset de Sourate Al-Baqara. Et dans la deuxième rak'at, qu'est-ce qu'il disait? قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. Ô gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous. نعم. وربما قرأ بدلها فلما أحس عيسى منهم الكفر فلما أحس عيسى منهم الكفر إلى آخر الآية. Et de temps en temps et occasionnellement, il récitait في صلاة الفجر. Qu'est-ce qu'il récitait? فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. Puis quand عيسى ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit إلى آخر الآية. نعم. Qu'est-ce qu'on prend comme avantage dans ce que je viens de dire maintenant? C'est qu'il est permis de lire sans commenter par le début d'une sourate. Non, il est permis de lire du Coran sans commenter par le début d'une sourate. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait la première raka, après le Fatiha, il commençait قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. Et dans la deuxième, قول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. Et dans un autre hadith, فلما أحس عيسى منهم الكفر خلافا لابن القيم. J'ai dit خلافا لابن القيم, يعني contrairement à ce qu'a dit Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim a dit qu'il n'était pas de la sunna de commencer une sourate par exemple par le milieu ou par la fin, mais c'était la sunna de commencer du début. Alors je viens de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu, voilà ici trois exemples où il a lu en ne pas commençant par le début, c'est-à-dire que c'était possible. وربما قرأ نعم وكان أحيانا عفوا نزل وأحيانا يقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الأخرى رواه مسلم وأبو داود. Et de temps en temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lisait? Il lisait toujours dans Salat al-Fajr, la Salat Sunna du Fajr, il lisait la première, قل يا أيها الكافرون, et il lisait dans la deuxième, Surat al-Ikhlas, قل هو الله أحد الله صمد. Et vous remarquez que c'est écrit quoi ici? C'est écrit qu'il faisait cela de temps en temps. Alors que vous remarquez que la plupart des musulmans font cela, yani la plupart du temps, si ce n'est pas tout le temps. Non. Nous, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on dit? On dit قل يا أيها الكافرون et on dit قل هو الله أحد. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela de temps en temps. Non. وسمع رجلا يقرأ الصورة الأولى في الركعة الأولى فقال هذا عبد آمن بربه ثم قرأ الصورة الثانية في الركعة الأخرى فقال هذا عبد عرف ربه. حديث صحيح وحسنه الحافظ في الأحاديث العالية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu une fois quelqu'un qui était en train de lire la première sourate, c'est-à-dire قل يا أيها الكافرون, dans la première raka de sunnat al-fajr. Lorsqu'il a entendu lire قل يا أيها الكافرون, il a dit هذا عبد آمن بربه, voilà un esclave qui a cru en son maître. Ensuite l'homme, lorsqu'il a récité la deuxième sourate dans la deuxième raka, c'est-à-dire il a lu قل هو الله أحد الله صمد, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit هذا عبد عرف ربه, voilà un esclave qui connaît son maître, c'est-à-dire qui a connu son maître. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait de ces deux sourates, قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد, il disait نعم السورتان هما, نعم السورتان هما, quelle excellente paire de sourates elles font, ces deux sourates, quelle excellente paire de sourates elles font. نعم. Donc ça, c'est pour la prière du Fajr. Maintenant, Inch'Allah Ta'ala, la prière du Dhuhr. Que lisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière du Dhuhr? وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، روى البخاري ومسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il récitait dans la prière du dhuhr, il récitait la surat al-fatiha et ensuite deux surats dans les deux premières rak'at, faisant la première plus longue que la deuxième. Ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la première rak'at plus longue que la deuxième. Hatta أنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى الباقيع فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها رواه مسلم والبخاري جزء منه. نعم. Et le prophète صلى الله عليه وسلم parfois il rallongeait يعني صلاة الظهر, il la faisait assez longue de sorte que la prière des fois du dhuhr commençait, c'est-à-dire de sorte qu'elle était tellement longue que des fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à lire, c'est-à-dire pendant salat al-dhuhr, il commençait à lire la première rak'at et une personne pouvait aller jusqu'au cimetière du Baqi'. Ensuite, accomplir ce qu'elle avait à faire, c'est-à-dire à celui qui est mort. Ensuite, aller faire des ablutions. La personne allait faire des ablutions. Et ensuite, elle venait à la mosquée alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'en était encore qu'à la première rak'ah. Et c'était aussi long que les compagnons pensaient qu'il faisait cela. Pourquoi ? C'était juste, c'était de façon à ce que les gens puissent rattraper la prière à la première rak'ah. نعم أبو داود ليس نبيه صحيح. donc le prophète صلى الله عليه وسلم de temps en temps rallongeait, يعني disait longtemps dans salat al-dhuhr au point où lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم commençait à dire on pouvait aller au cimetière faire le dua là-bas au cimetière, ensuite aller à la maison faire les ablutions, ensuite aller à la mosquée et on trouve le prophète صلى الله عليه وسلم qui est toujours dans la première rak'a. Non, qui est toujours dans la première rak'a. Ça, c'est salat al-dhuhr. Non. Wa kana yaqra'u sallallahu alayhi wa sallam fi kulli min rak'atayn qadra 30 aya. Qadra qira'at alif lam mim tanzilu alif lam mim tanzilu as-sajda wa fiha al-fatiha. Non, rawahu Ahmad wa Muslim. La plupart du temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait salat al-dhuhr, il récitait dans chacune des deux rak'a environ 30 versets. Naam. C'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a faite beaucoup. C'est lorsqu'il faisait salat al-dhuhr, dans les deux premières rak'a, comme il disait dans chaque rak'a 30 versets. C'est-à-dire, après le fatiha, bien sûr, c'est-à-dire comme à peu près. C'est pas à peu près, c'est sûr. C'est-à-dire comme surat Sijda. Naam. Si vous allez voir surat Sijda, vous allez trouver qu'elle contient 30 versets. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans salat al-dhuhr, lisait la plupart du temps 30 versets dans la première rak'a et 30 versets dans la deuxième rak'at. Wa ahyanan yaqra'u bis-sama'i wat-tariq. والسماء ذات البروج والليل إذا يخشى ونحوها من صور أو أبو داود الترمذي وهو حديث صحيح. Et de temps en temps, le prophète صلى الله عليه وسلم récitait par le ciel et par Tariq. والسماء والطارق. Et des fois par le ciel aux constellations. Et des fois par la nuit quand elle échappe. Ou d'autres sourates semblables. Donc de temps en temps, le prophète صلى الله عليه وسلم, qu'est-ce que je viens de dire que de temps en temps il lisait au samaï dat il buruj ou l'aïdi ida yakhsha ou nahwiha min suwar. Naam. Tout à l'heure j'ai dit au samaï ou tariq. Naam. Samaï ou tariq. Au samaï dat il buruj ou l'aïdi ida yakhsha. Donc de temps en temps il lisait par le ciel et par Tariq, et par le ciel aux constellations, et par la nuit quand elle enveloppe, tout ça dans Salat al-Dhar. Wa rubbama qara'a idha as-sama'u inshaqqat wa nahwa Ibn Khuzaymah fi hadith sahih. Et de temps en temps, il lisait quand le ciel se déchirera ou d'autres semblables. Wa kana as-sahaba radiyallahu ta'ala anhum ya'rifuna qira'atahu fi adh-dhuhri wal-'asr bi-ithtirab lihyatihi aw al-Bukhari wa Abu Dawud. Et les compagnons radiyallahu ta'ala anhum se basaient pour dire qu'il récitait dans la prière du Dhuhr ou la prière du Asr, se basait sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est en train de lire Salat al-Dhuhr ou Salat al-Asr. Il dit à voix basse, comment sait-on qu'il est en train de lire ou que par exemple il a terminé sa lecture. Les compagnons radiyallahu ta'ala anhum se basaient de part ou de se baser sur le mouvement de sa barbe, sur le mouvement de sa barbe. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une barbe assez large, non seulement assez longue mais aussi assez large de façon à ce que quand on est derrière lui sallallahu alayhi wa sallam et il est en train de lire, on peut voir sa barbe en train de bouger, en train de bouger. C'est-à-dire quand un homme a une barbe assez large, si on vient derrière son dos et on lui dit par exemple à voix basse, on peut voir sa barbe à droite et à gauche qui est en train de bouger, de façon à ce que s'il se tait, on voit que sa barbe ne bouge plus. Non. Maintenant, قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في آخرتين. On va voir chapitre que le prophète صلى الله عليه وسلم disait de temps en temps quelques versets après surat al-Fatiha dans les deux dernières rak'at. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأولوين قدر النصف قدر 15 آية. نعم رواه أحمد ومسلم. وربما اقتصر فيهما على الفاتحة. Le prophète صلى الله عليه وسلم faisait les deux dernières rak'at de salat al-Dhuhr, il les faisait moins longues que les deux premières. Environ 15 versets. Et parfois, il ne faisait qu'y réciter la sourate al-Fatiha. On a vu, ça fait quelques minutes, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien qu'il faisait dans salat al-Dhuhr, il faisait dans les premières rak'at 30 versets. 30 versets dans la première rak'at, 30 versets dans la deuxième rak'at. Maintenant, on parle de la troisième rak'at et la quatrième rak'at. Combien qu'il faisait? Il faisait 15 versets dans la troisième rak'at et 15 versets dans la quatrième rak'a après surat al-Fatiha. C'est dire quoi? C'est dire que on prend quel avantage? Et bien sûr, de temps en temps, il ne lisait que le Fatiha. Donc on prend un avantage que lire après le Fatiha dans la troisième rak'a et dans la quatrième rak'a, c'est une sunna que beaucoup de musulmans ne connaissent pas. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani a dit et que parfois, il ne lisait que le Fatiha dans la troisième étape. Ça veut dire que la plupart du temps, il lisait des choses. Donc, nous, ce qu'on fait, vous remarquez qu'on fait exactement le contraire. Et que beaucoup de nous, ne lisent dans le Dhuhr et le Asr, dans la troisième et quatrième rak'at, ne lisent que le Fatiha. C'est ça le plus connu chez la plupart des musulmans. Alors qu'il est de la sunna de lire dans la troisième rak'at et la quatrième rak'at, Salat al-Dhuhr, à peu près 15 versets dans la troisième rak'a et 15 versets dans la quatrième rak'a. Et on verra que dans Salat al-Asr, 7 versets à peu près et 7 dans les troisième et quatrième rak'a de Salat al-Asr. Naam, Cheikh Al-Albani a dit, Allah yirhamou, ce hadith contient l'évidence que de réciter d'autres sourates en plus de la sourate al-Fatiha est une sunnah. C'est-à-dire dans la troisième et quatrième. Naam. Est une sunna. Et un groupe de compagnons ont fait ainsi. Parmi eux, Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anhu. C'est également le point de vue de l'imam Shafi'i, que ce soit pour la prière du Dhuhr ou pour les autres. Et ont aussi adopté cet avis parmi nos érudits contemporains, Abu al-Hassan al-Laknawi, dans le Ta'diq al-Mumajjid, al-Muwatta. C'est pour ça que Cheikh al-Albani a dit l'Ahmoud, ou bien, pardon, c'est Abu al-Hassan qui a dit, il a dit, quelques-uns de nos compagnons adoptent un étrange point de vue, en obligeant quoi ? En obligeant la prosternation de la distraction, sujoud sahw, pour la récitation d'une sourate dans les dernières rak'at. Mais les commentateurs de Al-Maniya, Ibrahim al-Halabi, Ibn Amir Hajj et d'autres ont complètement refuté ce point de vue. Il n'y a aucun doute sur le fait que ceux qui ont dit cela ne connaissaient pas le hadith et que s'il leur était parvenu, ils n'auraient pas prononcé cela. Naam. Certains ulama ont dit ma'al asaf, par malheur, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit quiconque lit dans la troisième raka et la quatrième raka de Salat al-As ou Salat al-Dhuhr quelque chose, quelques versets après Fatiha, il doit faire sujoud sahw. Et bien sûr, ceci, cela bien sûr, c'est ce qu'on va dire nous, on va dire que sûrement ils ont dit cela parce que le hadith ne leur est pas parvenu. Ils n'ont pas connu le hadith sahih. Le hadith sahih qu'a dit, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la troisième raka de Dhuhr et la quatrième raka, il lisait jusqu'à 15 versets. 15 versets dans la troisième raka et 15 versets dans la quatrième. On va voir dans la salat al-Asr, 7 versets à peu près. Donc, celui qui dit que quiconque qui lit dans la troisième raka de salat al-Dhuhr et la quatrième, et aussi la troisième raka de salat al-Asr et la quatrième, quiconque lit des versets après Fatiha, doit faire sujoud de sahw, la prière de la distraction, on lui dit pardon, vous êtes peut-être un alim, mais il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'il est de la sunna de lire. Non seulement on ne fait pas sujoud de sahw, mais mieux encore, il est de la sunna de lire. Donc c'est une sunna yani, que beaucoup de gens ne connaissent pas. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide pour qu'on la fasse. Nous, pour vivifier la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voici maintenant une autre sunna que aussi beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est quoi ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Cheikh al-Albani, il a dit « وَكَانَ يُسْمِعُهُمُ الْآيَةَ أَحْيَانًا » رواه ابن خزيمة في صحيحه. نعم. وسنده صحيح. C'est quoi ça ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il leur faisait entendre un verset ou plus. C'est aussi dans le Bukhari. Et Muslim. Le prophète, voilà une sunna que beaucoup de gens ne connaissent pas, cela, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur faisait entendre un verset ou plus. C'est-à-dire que même dans Salat al-Dhuhr ou on doit lire à voix basse, il est de la sunna de temps en temps de lire un verset ou deux ou trois ou quelques versets à voix haute, pour faire entendre les gens qui sont derrière, l'imam. Donc, même si on fait la prière à la maison en groupe, de temps en temps, on lit dans Sourate Dhuhr et Sourate Al-As un verset ou deux à voix haute pour faire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi aussi ? Pour que les gens qui sont derrière nous sachent à peu près où et yani, qu'est-ce qu'on est en train de faire et dans quel passage on est en train de lire. Comme ça, les gens ne disent pas qu'est-ce qu'il est en train de lire celui-là. Il a tardé. Il ne veut pas s'incliner. Qu'est-ce qu'il est en train de lire ? Quand tu lèves ta voix à voix haute, tu dis par exemple « Amen al-Rasoul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun » Il se dit « Tiens, il est en train de lire ce passage. Donc il sait où tu es et il patiente. » Et il t'attend pour que tu termines bi'inna al-zawji. Là, j'ouvre une parenthèse très, 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 très importante. C'est quoi ? Naam ? C'est que quand je dis que ça, c'est une sunna, ça ne veut pas dire que c'est une sunna qui se fait partout. C'est une sunna qu'on peut faire quand on est avec des gens du ilm, quand on est avec des salafiyin, quand on est avec des gens, au moins, il y a des gens qui comprennent avec des gens cultivés. Et des fois, même avec des gens cultivés qui comprennent, qui ne sont pas salafistes, on trouve beaucoup de problèmes. Non, on trouve des problèmes. C'est pour ça que on ne fait cette sunna qu'avec des gens qui connaissent cette sunna. Ou bien avec des gens qui acceptent la sunna. Ce sont des gens jeunes, des jeunes, masha'Allah, qui aiment la sunna, qui aiment le minhaj, etc. Ceux-là, on leur dit, voilà, on va faire la prière, voilà, il y a une sunna. Aujourd'hui, par exemple, on va la faire pour, inshallah ta'ala, avoir l'ajr. Et comme ça, ils ne seront pas étonnés. Et comme ça, il n'y aura pas de fitna. Mais beaucoup de gens, beaucoup de nos frères, quand on va des sunnah, sans avertir les gens. Et ils les font des fois dans des mosquées où on ne peut pas faire. Les mosquées, c'est plein d'innovateurs, c'est plein de soufis, de tout ça. Tu vas faire une sunnah pareille pour avoir le ajr et la récompense. Et voilà que tout se renverse et tu te trouves avec de grands problèmes. Voilà, hawla wa la quwwata illa billahi al-azim, vu le djihl, vu l'ignorance qu'il y a de nos jours. Naam. وكانوا يسمعون منه النغمة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. Et les compagnons entendaient le ton de sa récitation. Glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut. T'est-il parvenu le récit de l'enveloppante. نعم. وكان أحيانا et parfois يقرأ بالسماء ذات البروج وبالسماء والطارق ونحوها من الصور. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de temps en temps, qu'est-ce qu'il disait aussi? Il disait, toujours on est dans Salatullah, il disait de temps en temps, par le ciel aux constellations et par le ciel et par Tariq et d'autres sourates qui sont semblables. Wa kana ahyanan yaqra'u al-layli idha yakhsha wa nahwaha. Naam. Et de temps en temps, il lisait par la nuit quand elle enveloppe et d'autres sourates semblables et d'autres sont semblables. Maintenant salat al-asr. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u fi al-ulayayn bi fatihati al-kitab wa suratayn wa yutawwilu fi al-ula ma la yutawwilu fi al-thaniya. Wa kanu yadhunnun annahu yuridu bi dhalika an yudrika an-nas ruk'ata. Donc pour salat al-asr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter le Fatiha, ensuite deux autres sourates dans les deux premières rak'a. Qu'est-ce qu'il faisait? Il rallongeait la première rak'a plus que la deuxième. Il rallongeait la première rak'a plus que la deuxième. C'est un hadith dans le Bukhari ou Muslim. Pourquoi? De sorte que les compagnons pensaient qu'il faisait cela dans le but que l'on puisse se joindre à la prière à la première rak'a. Naam. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait toujours la première rak'a un peu plus longue? On a vu, hein, Salat al-Dhuhr, elle était tellement longue, la première raka, que les gens allaient au cimetière, ensuite à la maison faire des ablutions, ensuite revenir à la mosquée, et ils le trouvaient toujours dans la première raka. Les compagnons disaient, on croit qu'il rallongeait la première plus que la deuxième pour donner le temps aux gens pour qu'ils arrivent à la première raka. Car la première raka est très 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 importante dans la salat. Naam. Celui qui rentre dans la mosquée et il trouve les gens dans la première raka, il doit dire beaucoup alhamdoulilah. Tellement c'est important la première raka. Naam. Et il faisait les deux, je parle en arabe. Wa kana yaj'alu rak'atayn al-akhiratayn aqsar min ulayayn qadra nisfihima. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait environ 15 versets dans chacune des deux premières rak'at, et environ la moitié de ce qu'il récitait, c'est-à-dire environ la moitié de ce qu'il récitait dans les premières rak'at du dhuhr. Vous avez vu avec moi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les deux premières rak'at du dhuhr, il lisait 30 versets. Et dans les deux dernières, il lisait 15. Et dans les deux dernières, naam, il lisait 15. Maintenant, on est à salat al-asr. Salat al-asr, c'est la moitié. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait dans les deux premières rak'at 15 au lieu de 30. Et dans les deux dernières, 7. Naam. Et de temps en temps aussi, il faisait parfois, il faisait entendre un verset ou plus. De temps en temps, il faisait entendre un verset ou plus. Donc, c'est de la sunna aussi, même dans Salat al-Asr, de temps en temps, d'élever la voix pour faire entendre ceux qui sont derrière nous, pour qu'on leur fasse entendre un verset ou plus. Naam. Salat al-Maghrib. Salat al-Maghrib. Maintenant, en ce qui concerne Salat al-Maghrib, وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما أحيانا بقصار المفصل. Le prophète صلى الله عليه وسلم, des fois il lisait des courtes sourates du Mufassal. À ce que, quand les gens terminaient le prière, ils sortaient, il était possible que le prophète صلى الله عليه وسلم, quand il faisait Salat al-Maghrib, les gens, quand ils sortaient, ils ne faisaient pas encore noir. De façon à ce que si on jetait avec l'arc, on jetait une flèche, on voyait où elle atterrissait, tellement elle n'était pas noire. Car si c'est noir, on ne peut pas voir, si on jette un caillou ou une flèche, on ne peut pas voir où il va tomber. Mais puisqu'il ne faisait pas noir encore, donc on peut voir où la chose atterrissait. Naam. Wa qara'a fi safar bi tini wa zaytoun fi rak'ataniya. Et une fois, les compagnons ont mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lu dans un voyage, ils se souviennent qu'il a lu dans la deuxième rak'at, wa tini wa zaytoun. Non, ils ne se souviennent pas s'il a lu dans la première, mais se souviennent qu'il a lu dans la deuxième, sallallahu alayhi wa sallam, dans Salat al-Maghrib, dans un voyage, il l'a lu, avec wa tini wa zaytoun. Donc nous, de temps en temps, quand on est en voyage, même si on lit n'importe quoi dans la première, on lit dans la deuxième au moins le tini ou le zaytoun pour faire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكان احيانا يقرا بطوال المفصل واوساطه فكان صلى الله عليه وسلم تارة يقرا بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. حديث صحيح رجل بن خزيمة. Mais parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait les longues ou moyennes sourates du Mufassal, comme ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, ou bien parfois la sourate At-Tur, ou encore parfois Al-Mursalat, qu'il récitait dans la prière, dans la dernière prière qu'il pria. Et parfois, il récitait la plus longue des deux grandes sourates, Al-A'raf. Il la lisait dans deux rak'at. Naam. Hadithun Sahih al-Bukhari Abu Dawud. Parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait quoi? Lisait surat al-A'raf. Naam. Il a partagé les rak'at de Salat al-Maghrib. Des fois il s'est seul. Deux rak'at. Et des fois, quand il avance, quand il avance, que Salat al-Maghrib est courte, quand certains disent, attendez, ça fait vite à prier parce que Salat al-Maghrib est très court. Quoi Salat al-Maghrib? C'est le 6 minutes. Après, c'est pas vrai. Et des fois il lisait l'A'raf. Tout si long. Maintenant, c'est quoi la sunna quand on termine Salat al-Maghrib? C'est quoi la sunna? Car il y a parmi les 12 rak'at surérogatoires, il y a les deux rak'at qui viennent après Salat al-Maghrib, les deux rak'at de nafila surérogatoire qui viennent après Salat al-Maghrib. Qu'est-ce qu'on lit dans ces deux rak'at? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yiqra'u fiha qul ya ayyuha al-kafirun qul huwa Allahu ahad qul ya ayyuha al-kafirun et qul huwa Allahu ahad. Rawa Ahmed al-Nasa'i, hadith sahih. Donc en ce qui concerne la sunna du Maghrib, il est recommandé de lire quoi? Ô vous les infidèles, dans la première raka'a, qul ya ayyuha al-kafirun. Et dans la deuxième, qul huwa Allahu ahad. Dit Allah est unique. Ici, j'attire j'ouvre une petite parenthèse. Pour dire que ceux qui font la salat, ceux qui font la prière à la mosquée, je parle des hommes, il n'est pas de la sunna. En général, il n'est pas de la sunna, en général, de faire des rawatib dans la mosquée. Je vous l'ai dit, ça, tout le monde sait cela. Il n'est pas de la sunna de faire les deux rawatib, pardon, de faire les rawatib, de faire ces nafilat, les 12, de les faire dans la mosquée, mais on les fait à la maison. Sauf bien sûr, quelqu'un qui de la mosquée va aller au travail, etc. Celui-là, il les fait à la mosquée. Donc ça, c'est en général. En général, on ne fait pas les rawatib, les sunan recommandés, on ne les fait pas dans la mosquée. Et plus particulièrement, on ne doit pas faire les deux rak'at de ce qui vient après le maghrib. Ça, c'est plus particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith, yani, qui est venu particulièrement, on ne devait pas faire, ou bien pour dire que on devait faire ces deux rak'at à la maison. Donc je résume, je répète. En général, on ne fait pas les salat rawatib à la mosquée. Et en plus particulier, on ne doit pas faire les deux rak'at qui viennent après le maghrib. C'est-à-dire, on doit insister pour que, si on peut, on va à la maison pour faire les deux rak'at qui viennent après le maghrib. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Irka'u hatayn rak'atayn fi buyutikum » Yani « Subha min al maghrib » Hadith bon, hadith hasan. C'est le numéro 909 dans Sahih al-Jami. Le prophète alayhi wa sallam a dit « Irka'u » Inclinez-vous là, disons, faites ces deux rak'at dans la maison. C'est-à-dire les deux rak'at après la prière. Il a insisté, il a dit, faites ces deux rak'at dans la maison. Quant à Salat al-Isha, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, كان يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصل. فكان تارة يقرأ الشمس وضحاها وأشباهها من الصور. Quant à Salat al-Isha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait les sourates moyennes du Mufassal dans les deux premières rak'at, le hadith sahih dans Tabarani. En effet, il récitait parfois par le soleil et par sa clarté et des sourates semblables. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait dans Salat al-Isha, qu'est-ce qu'il lisait? Il lisait le genre au shamsi wa duhaha et des sourates qui lui ressemblent comme ça. Naam. Et parfois, il récitait également quand le ciel se déchirera. Naam. En y faisant la prosternation qui s'y trouve à l'intérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de temps en temps, kana yaqra'u dans la première rak'at, idha as-sama'u shaqqat. Dans salat al-Isha. Idha as-sama'u shaqqat wa yasjudu biha. Et il faisait la prosternation, car il y a une prosternation dans cette salat. Et je lis d'abord en arabe. Waqara amaratin fi safar. Fi safar maratin, alors qu'il était en voyage, il a lu dans salat al-Isha, il a lu wattini wazzaytoun fi rak'ati al-oula. Wattini wazzaytoun fi rak'ati al-oula. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il était dans un voyage, il a lu dans la première rak'at de Salat al-Isha, qu'est-ce qu'il a lu? Il a lu Wattini wa Zaytoun. Et les sahaba n'ont pas dit ce qu'il a lu, sallallahu alayhi wa sallam, dans la deuxième rak'at, dans ce voyage. Donc, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, les compagnons ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu dans un voyage. Dans Salat al-Maghrib, ils ont rapporté qu'il a lu dans la deuxième rak'at, il a lu au Tini wa Zaytoun. Et ils n'ont pas dit ce qu'il a lu dans la première. Ici, dans Salat al-Isha, aussi, dans un voyage, ils ont rapporté ce qu'ils ont lu, ce que le prophète alayhi wa sallam a lu dans la première rak'at. Ils ont dit Tini wa Zaytoun et n'ont pas rapporté ce qu'il a lu dans la deuxième. Donc c'est le contraire de Salat al-Maghrib. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطالة القراءة فيها وذلك حين صلى معاذ بن جبل لأصحابه رضي الله تعالى عنه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل من أنصار فصلى يعني وحده فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وقرأ سبح اسم ربك الأعلى وقرأ اقرأ باسم ربك وقرأ والليل إذا يخشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة رواه البخاري ومسلم. نعم et il n'est pas ou là il est interdit de rallonger la récitation dans la prière de l'Isha. Il est interdit à quelqu'un dans sa l'Isha de lire quelque chose de long. Naam. Et vous connaissez le cas de Mu'ad ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu qui guidait les gens dans la prière de l'Isha et une fois il la fit trop longue. Elle était tellement longue pour eux qu'un homme parmi les Ansar qui a fait cet homme radiallahu ta'ala anhu, il a quitté la prière et il a terminé seul de côté. Il est sorti tout seul et il a terminé la prière. Et on a cité ça une fois, on a dit que des fois il était permis de quitter l'imam. On le quitte et on termine seul. Et j'avais dit quelles sont par exemple les causes qu'on pouvait quitter l'imam. Alors lorsque Mu'ad ibn Jabal fut informé, on lui a dit il y a quelqu'un qui a quitté la salat avec toi et il a terminé seul. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce doit être hypocrite. Celui-là, ce doit être un hypocrite. Et quand l'homme eut vent de cela, il alla au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, il l'informa de ce qu'a dit Mu'ad radiallahu ta'ala fait, sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'ad, souhaites-tu être le responsable d'un désordre? Tu veux être quelqu'un qui fait des fitnas? Il lui a dit, et ensuite il lui a dit, écoute Mu'ad, lorsque tu diriges les gens, récite par le soleil, par sa clarté, ou glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut, ou alors lis au nom de ton Seigneur, ou alors lis par la nuit quand elle enveloppe tout. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que la personne âgée, l'homme faible, et celui qui a un besoin à satisfaire, prie derrière toi. Naam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, il a dit « Salli bi salati ad'afi al-qawm » C'est un hadith qui est sahih, il a le numéro 3773 dans Sahih al-Jami'. Qu'a dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit à quelqu'un, il lui donne des conseils, il lui dit « Écoute, quand tu fais la prière, tu guides les gens, prie d'après la prière du plus faible qui est derrière toi. » Naam. Avant de faire la prière, regarde derrière toi. Qui est derrière toi? Tu vois quelqu'un, Allah l'Azim, qui a du plâtre dans sa jambe. Tu vois un autre qui a 80 ans ou plus. Alors là, tu dois faire la prière d'après le faible, d'après ce faible qui est derrière toi. C'est comme ça, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et non pas d'après la force que tu as à toi. Tu ne regardes pas la force que tu as à toi et l'iman que tu as à toi, et masha'Allah, la faveur de l'iman que tu as à toi. Naam. Toi, tu peux lire Baqara, masha'Allah alik. Mais as-tu oublié celui qui est derrière toi, qui est âgé, qui est malade, ou bien celui qui veut satisfaire un besoin? Il y a quelqu'un derrière toi qui doit prendre le bus. Il ne faut pas que tu sois toi la cause pour que le bus parte, ensuite pour qu'il aille à pied. Il y a quelqu'un derrière toi qui doit voyager. Il y a quelqu'un derrière toi qui doit aller travailler. Il faut qu'il soit à deux heures. Il ne faut pas que tu sois toi la cause pour que on lui fasse un blâme ou là je ne sais pas quoi. Et il y a beaucoup d'autres gens derrière toi qui ont beaucoup beaucoup à faire et des choses des fois très très importantes. Des choses très importantes. Le pharmacien va fermer, le docteur va s'en aller, etc. Donc il faut toujours que tu te dis cela avant de dire la Akbar. C'est pour ça que Ibn Hajj al-Asqalani, dans Al-Bari, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on ne doit pas, et on ne peut pas, c'est pas on ne doit, on ne peut pas rallonger la salat que s'il y a des gens derrière nous, que dans un cas, ou plutôt dans deux cas. C'est quoi les deux cas? Premièrement, il faut que tous les gens soient d'accord. Il faut qu'on demande aux gens, est-ce que vous êtes d'accord pour lire par exemple 100 ou 200 versets? Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut premièrement que tout le monde dise je suis d'accord. Ça, c'est le, La première condition. Et la deuxième condition, il faut quoi? Ça ne suffit pas. Ce n'est pas une condition suffisante. Pourquoi? Parce que je leur dis, attention, je vais lire le Baqara. Je vais lire le Baqara dans la première rak'a. Vous êtes d'accord? Ils vont dire, d'accord. Moi, je dis, Allahu Akbar, et on commence à dire. Ensuite, il y a d'autres gens qui rentrent. D'autres gens qui sont malades ou vieux et qui ont affaire, etc. Et qui ne sont pas d'accord car ils n'étaient pas présents quand j'ai demandé l'avis des gens. Donc, c'est pour ça. La deuxième condition, c'est quoi? La première, c'est qu'ils soient tous d'accord pour rallonger la salat. La deuxième, il faut qu'on soit, comme a dit Ibn Hajr, il faut qu'on soit dans un endroit où on est sûr que personne ne va rentrer, personne d'autre, sauf ceux-là. C'est-à-dire dans une maison, ou là, dans le travail, ou là, je ne sais pas, dans un endroit où personne ne va rentrer. C'est comme si on va fermer la porte à clé dans laquelle il y a l'imam, on lui dit maintenant, dire la Akbar, et c'est la salat longue, on est tous d'accord. Non. Seulement dans ce cas, on peut faire une longue salat. Non. Ensuite, il y a la prière de la nuit, mais quand il est 22h30, c'est-à-dire l'heure est telle là, on va aller directement aux questions. Je dis subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Non. On va, inshallah ta'ala, directement aux questions. Abu Abdel Malik Al-Afari, tafadlal. Inch'Allah, écrit un peu plus grand. Malik, jazakallahu khair. Quelle est la preuve concernant la sunna qui est de lire parfois à voix haute? Naam. La preuve, non, c'est pas la peine de réécrire, j'ai lu. C'est pas la peine de réécrire, j'ai lu. La preuve, c'est quoi? La preuve ou plus? Non. La preuve, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a la suite. Tayyib. Continue alors la suite, ensuite on va voir. Continue la suite, ensuite on va voir. Tayyib. Le dalil, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana yusmi'uhum al-aya ahyanan. Rawa Ibn Khuzaima fi sahihi wa Dhiya' al-Maqdisi fi al-Mukhtara wa qala al-Albani sanaduhu sahih. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela de temps en temps. Et tout ce que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous, on le fait, c'est tout ce que fait le prophète Aslam dans les adorations, c'est une sharia pour nous. Laqad kana lakum fi rasulillah iswatun wa uswatun hasana. Donc tout ce que fait le prophète Aslam, c'est une sharia qui nous est recommandé de suivre. Naam. En ce qui concerne, est-ce que quand on est seul, on le fait? Je ne sais pas. Mais de préférence, et même Abu Bakr Siddiq l'a fait, comme c'est le hadith dans le Bukhari où il est noté, je dis que on a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait pour les compagnons, yani il le faisait entendre. Donc nous, de temps en temps, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des gens derrière nous, ou il y a quelqu'un avec nous, au moins quelqu'un avec nous à notre droite, si on fait la prière à la maison, ou la notre femme derrière nous, on lui fait entendre, car ça s'était prouvé que c'était dans la salat du groupe. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Non. Car je crois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour que les autres sachent où tu es et pour les faire patienter. Alors, pas seul, alors, seul, je ne connais pas cette sunna. L'affaire seule, je ne connais pas cette sunna. Je sais qu'elle se fait en groupe, incha'Allah ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Non. بنت كريم تفضلي وفيك بارك الله تعمل الله إن شاء الله تعالى quand il y a quelqu'un auquel je réponds tu le fais des pour tertib من أجل الترتيب c'est pas parce qu'on aime descendre les gens c'est juste pour le tertib pour que les autres إن شاء الله تعالى montent. نعم. Bint Karim a dit salam alaykum, alaykum salam. Certaines sœurs pour salat Fajr, Maghrib et Isha le font en voix basse. est-ce une faute ou pour les femmes c'est fard aussi de faire ces salats à voix haute? Naam, l'avis le plus juste, Inch'Allah ta'ala, c'est l'avis de l'Albani, et c'est l'avis de il y a un groupe de ulama, etc., qui ont dit aussi cela, que Inch'Allah ta'ala, c'est de la sunna, c'est de la sunna pour la femme de lire à voix haute. C'est de la sunna, femme d'obligation. Non. Sauf s'il y a des étrangers. Tant qu'il y a ton mari, tes enfants, tes frères, ton père, ton grand-père, tout cela, tu peux lire à voix haute, Inch'Allah ta'ala. C'est-à-dire haute, pour te faire entendre et entendre ceux qui sont derrière toi. Mais s'il y a un étranger, quelqu'un avec lequel une femme peut se marier, elle ne peut pas lire à voix haute. C'est la vie de l'Albanie et le Khtaraho, yani le Mujma al-Kir, Inch'Allah. Vous avez dit que c'est une sunna, na'am. C'est une sunna. C'est une sunna pour une femme, comme s'il y a à voir au cœur. Je répète, pour une femme, c'est une sunna de lire à voix haute s'il n'y a pas un homme étranger avec elle. C'est une sunna de lire à haute pendant Salat Subh et Maghrib et Isha, comme a dit Cheikh Al-Albani et d'autres ulama, Inch'Allah ta'ala. Salafi, tafadhal. Naam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Lorsque l'on rentre à la mosquée et que le mu'azzin fait l'azan, doit-on faire la nafila ou peut-on faire tahiyyat al-masjid ou est-ce qu'on peut regrouper la niya comme je l'ai entendu récemment? Souleyman, après Salafi pour sa question. Lorsqu'on rentre à la mosquée et que le mu'azzin fait l'azan, doit-on faire la nafila ou peut-on faire tahiyyat al-masjid ou est-ce que l'on peut regrouper la niya comme j'ai entendu récemment? Salafi, je n'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire on groupe la niya. C'est-à-dire on groupe quoi avec quoi? On regroupe la niya de quoi avec quoi? Je n'ai pas compris, explique-moi. Barakallahu fik. De mettre l'intention de la nafila. C'est-à-dire nafila autre que la prière de la mosquée. C'est ça ce que tu veux dire? Avec l'intention de tahiyyatul masjid. Naam. J'ai compris. Naam. Je commence par la première question. Quand quelqu'un, naam, rentre à la mosquée et que le mu'adhin fait le adhan, les ulama ont divergé. J'ai lu qu'il y avait divergence. Certains ont dit, tu attends le adhan, des choses qu'ils attendaient. Mais ils faisaient directement la prière. Mais, Inch'Allah ta'ala, je dis deux mois. Si Inch'Allah ta'ala, tu attends jusqu'à ce que termine l'adhan, Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas celui de la mosquée, celui-là. Il n'y a pas de khilaf, il dit avec le mot adhan. Mais on est en train de parler de la mosquée. Non, si tu veux attendre l'adhan, tu l'attends. Si tu veux faire la prière, directement tu l'as fait, Inch'Allah ta'ala. C'est ce que j'ai lu, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Mais, en ce qui concerne l'intention, on peut joindre entre les deux niyas. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de faire l'intention, tu n'es pas obligé de faire la prière de tahiyyat al-masjid, si tu vas faire par exemple les rawatib. Non, si tu vas faire par exemple les quatre qui sont avant d'or, la prière du masjid sera groupée avec les quatre. Ce n'est pas la peine, pas obligé. Mais maintenant, si quelqu'un a du temps et il veut la faire, elle, ensuite il veut faire quatre, par exemple des rawatib, il peut faire cela. Mais s'il n'a pas de temps ou il ne veut pas, il peut les grouper. Pourquoi? Car tahiyyat al-masjid, elle n'est pas demandée, mais elle est demandée pour ne pas s'asseoir avant de faire une prière. Et toi, alhamdoulilah, tu vas faire nafila avant de t'asseoir. Donc, la prière de Tahiyat al-Masjid rentre dans les autres, Inch'Allah ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala est plus savant. Sulayman, tafadlali. Salafi, après Inch'Allah ta'ala. Reviens après Inch'Allah et pose la question après. Pour donner Inch'Allah ta'ala le temps aux autres pour qu'on soit Inch'Allah ta'ala équitable. Que chaque Inch'Allah ta'ala pose une question. Toi, Inch'Allah ta'ala, déjà tu as posé deux. Naam. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Sulayman a dit: pourriez-vous rappeler comment effectuer Salat Subh et la Salat Surat al-Fajr? À quel moment effectuer son dernier délit? Barakallahu fikum. Naam. Je crois que la sœur veut dire yani, quand est-ce qu'on commence par le Fajr et quand est-ce qu'on commence par le Subh. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Si c'est quand quelqu'un se réveille le matin, quand quelqu'un se réveille le matin tard, c'est-à-dire qu'il ne va pas aller à la mosquée, une femme se réveille, qui ne va pas à la mosquée, il regarde, ou bien il regarde par la fenêtre, ou bien, alhamdoulilah, il fait toujours noir. Dans ce cas, il commence par Salat al-Fajr, la Sunna. Et il fait d'abord le Adhan, bien sûr. Ensuite, il fait Salat al-Fajr. Ensuite, il attend un peu. Ensuite, il fait l'Iqama et il fait Sobh. Et il fait Salat al-Sobh. Maintenant, s'il se lève, le contraire, il voit par la fenêtre, il trouve que, là, c'est le soleil, mashallah, en face de moi. Il fait chaud. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le adhan toujours. Ensuite, il commence par la sunna du Fajr. Il dit salam alaikum. Il fait la iqama et il fait salat al-subh. Pourquoi il a commencé par du Fajr? Parce que c'est trop tard. Le soleil s'est déjà levé. Salat al-subh est sorti de son heure. Donc, il vaut mieux faire des salats. Yani, bit-tartib. Fajr, sunna, ensuite, obligatoire. Et c'est comme ça qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il s'est réveillé une fois en retard. Abu Bakr Siddiq l'a réveillé, ils ont trouvé que le soleil s'est déjà levé. Qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a commencé par l'Adhan, bien sûr que c'est Bilal qui l'a fait. Ensuite il a fait Sunnat al-Fajr. Ensuite il a fait Salat al-Subh. Et maintenant, troisième cas, qui est un peu délicat, quand quelqu'un se réveille, il regarde par la fenêtre, il trouve que il fait un peu noir, mais c'est-à-dire qu'il a peur s'il va faire salat al-fajr, sunnat al-fajr, que ben vite, et il fait la iqama et il commence par la salat al-subh qui est obligatoire pour que au moins il rattrape une rak'at avant que le soleil ne sorte. Pour ça que, quand il se lève, s'il trouve que le soleil, il a peur que le soleil se lève, il commence à faire jaune comme ça, et que c'est pas très noir, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le Adhan vite et il commence par Salat al-Subh. Salat al-Subh. Naam. Pour rattraper au moins une rak'at avant que le soleil ne se lève. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il termine, il dit salam alaykoum. Il attend jusqu'à ce que le soleil se lève bien pour qu'il puisse. Faire Salat al-Subh. Inch'Allah ta'ala, Inch'Allah, je souhaite que ce soit la réponse à la question que les sœurs ont posée. Wallahu subhanahu wa ta'ala, si ce n'est pas ça la réponse, donc je n'ai pas compris la question. On demande, Abu Maryam, prépare-toi, barakallahu fik. On demande si l'adhan doit être différent de celui du Subh. Je n'ai pas compris quel adhan. Elle parle de quel adhan? Il y a un seul adhan, il y a le adhan du Subh. Quel adhan doit être différent? Quel adhan? Moi je parle du adhan du Subh. Vous parlez de quel adhan qui doit être différent du adhan du Subh? Si l'adhan est différent pour Salat Subh et Fajr. pardon, le Fajr n'a pas de adhan. C'est le Subh qui a le adhan. Quand on fait le adhan, le deuxième, c'est pour Salat Subh, car il n'y a pas de adhan pour une Salat Nafila. Donc je ne vois pas comment il peut être différent. C'est un adhan normal. C'est un adhan normal. Quand on se lève pour Salat Subh, soit on est en retard, soit on n'est pas en retard. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Shahadu la ilaha illallah, Shahadu la ilaha illallah, et comme ça jusqu'à ce qu'on termine. Naam, c'est un adhan du sort. Il n'y a pas un adhan de Salat al-Fajr. Et s'il fait noir, on commence par Salat al-Fajr. Ce n'est pas parce qu'on a fait le adhan à cause du Salat al-Fajr, mais on l'a fait à cause du Salat al-Fajr. Mais on a commencé par Salat al-Fajr parce qu'il faisait tôt. Il faisait encore noir. Tayyib, Abu Maryam, tafadhal. Assalamu alaikum, alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelles sont les choses qui peuvent nous amener à avoir une bonne concentration dans la salat? Naam. Inch'Allah ta'ala, à cette question, j'ai répondu plusieurs fois. Je voulais vous dire aussi qu'un frère a ouvert une rampe dans la partie de non-musulmans et qu'il a eu des résultats positifs. Naam, jazakallahu khair, barakallahu fik. Istikhara, pour ouvrir la salle dans la... dans le côté, il y a un non-musulman. J'ai fait l'istikhara, Inch'Allah ta'ala. je me sens, Inch'Allah ta'ala, prêt à commencer. Mais maintenant, j'allais faire kitab tawhid. Ensuite, j'ai bien réfléchi. Je me suis dit, kitab tawhid, peut-être que ne sera pas convenable. Pourquoi? Parce que kitab tawhid, ça parle des sifat, des attributs, des noms de Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya et tout ça. Et moi, je pense ouvrir cette salle spécialement et surtout pour ceux qui ne sont pas convertis. Alors, quelqu'un qui n'est pas converti, quelqu'un qui est un kafir, je ne crois pas que ça l'intéresse beaucoup que tu lui parles des attributs et des noms, etc. C'est pour ça que je vais faire ça, je vais expliquer le livre de Riyad, etc., qui sont passés autrefois. Naam, pour quelque chose de débutant, je ne connais pas l'islam. Naam, j'ai dit peut-être que je vais expliquer Riyad Salihin. Il contient des histoires et années extraordinaires, et très attirantes, etc. Je crois que je commencerai par ce livre. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Inch'Allah ta'ala, je pense commencer Inch'Allah ta'ala la semaine prochaine. Je cherche seulement le livre de Othman al-Othaymin qui a expliqué ce livre. Je voulais vous faire part qu'il a de bons résultats, Inch'Allah. Naam, tu m'as encouragé. Tu m'as encouragé, barakallahu fik. Revenons à quelles sont les choses qui nous donnent la concentration. Je l'ai dit, pour avoir la concentration, c'est pas une chose qu'on peut avoir comme ça. En 5 minutes. On n'a pas la concentration, on va faire une chose de concentration. Là, on l'a mangé, alhamdoulilah, on a la concentration. Mais c'est un dur travail. Un dur que Allah Ta'ala rend facile, bien sûr, pour les sincères. C'est quoi? C'est qu'il faut être loin des choses futiles. Loin des films. Loin des chansons. Loin des gens qui parlent dans le vide. Loin, en général, être loin des futilités, c'est tout. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit dans le Coran, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, ont triomphé les croyants, الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ, ceux qui ont la concentration dans la salat, et derrière ce verset, Allah donne, lorsqu'il a parlé de concentration, il a dit, et ceux qui sont loin des futilités, loin du laro, loin du kalam, loin du vide, loin des choses qui sont vides, loin de voir des films, loin de ceci, loin de cela, alter, man. Et regardez par exemple, quelqu'un qui est en train de lire le Coran, Et quand il termine le Coran, il rentre dans la salle. Regardez qu'est-ce qu'il ressent et comment il fait avec quelqu'un qui était en train de voir un match de football. Et qui entend l'adhan, il laisse le match de football et il va faire la prière, soit à la mosquée, soit à la maison. Imaginez la différence entre celui qui rentre dans la salate et auparavant il était en train de lire le Coran, et celui qui rentre dans la salate et auparavant il était en train de voir un match de football. Il y a la différence entre le ciel et la terre. Et je suis sûr que celui qui vient de rentrer dans la salate et qui était en train de voir un match de football, que c'est très difficile pour lui, la concentration. Et que, il dit Allahu Akbar, et il est en train de penser, est-ce qu'ils ont marqué ou ils n'ont pas marqué? Est-ce qu'il y a eu un... Est-ce que Zidane, il a... Il a dribble, est-ce que Rondo ou là, je ne sais pas comment il s'appelle. Est-ce que. Nous a contre la Tabda. Je sors et je reviens. De faire quelques prières, par exemple, avant de rentrer dans la salat. Avant de rentrer, par exemple, dans la salat Tabda. Il y a 4 rak'at. Pourquoi? Parce qu'on vient du travail et si on rentre directement dans la salat, on n'a pas la concentration. Donc on fait 4 par exemple avant le dhuhr. Pourquoi? Pour avoir. Donc je dis, pour avoir la concentration, il faut, Inch'Allah ta'ala, travailler un peu dans l'état pour avoir le cœur raffermi, pour avoir un cœur yani, qui est prêt à. Yani, à sentir, Inch'Allah ta'ala, la concentration. Mais comme je disais, quelqu'un qui, du matin au soir, entend les futilités du matin au soir, et il marche avec la télévision, ensuite il va dire, ou avec la musique, ensuite il va dire, je vais essayer d'avoir la concentration, il est impossible qu'il ait la concentration. Je dis impossible. Naam. Fadia Boumadim, chef, une dernière chose sur la question d'avant. La personne m'a dit, on peut vite vous dire, est-elle obligée ou pas de réciter à voix haute comme les hommes dans la prière pour la femme? J'ai dit que pour la prière pour la femme, c'était une sunna qu'elle lise à voix haute, qu'elle récite à voix haute. Ça, c'est Inch'Allah ta'ala l'avis le plus juste, Inch'Allah ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant des femmes, il a dit, إنما النساء شقائق الرجال. Il a dit, la femme c'est comme l'homme. La femme a été créée de l'homme. شقائق الرجال. Les femmes ont été créées de l'homme. Donc il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme dans la salat. C'est pour ça que de préférence, dans la salat où on lit à voix haute, la femme doit lire à voix haute. Naam, sauf s'il y a un étranger. Sauf s'il y a un homme qui est étranger à elle. Dans ce cas, elle lit à voix basse. Naam. والله سبحانه وتعالى اي بلو سافون ام عبد الحق تفضلي نعم ام تفضلي ام عبد الحق ني با زافيك نو أم عبد الحق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته من صلاة qui n'a pas été faite à son heure. Combien de temps attend pour faire la salat avant qu'elle soit plus acceptée? بارك الله فيك شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم, on a entre une salat يعني que l'heure de la salat est arrivée. On a, pour la faire, jusqu'à ce que rentre la deuxième salat. Isha, pour le sobh. sauf pour ces deux salats, un peu mieux. J'entends le adhan du dhuhr. J'ai maintenant devant moi pour faire salat al-dhuhr jusqu'à ce que j'entende le adhan du asr. Ça veut dire si j'entends le adhan du asr, c'est terminé pour moi. Si je ne l'ai pas fait exprès, j'aurai des péchés et je ne peux pas la faire. Je ne peux même pas la rattraper. Maintenant, si j'entends salat al-asr, le adhan, j'ai devant moi jusqu'à salat al-maghrib. Si j'entends Adhan al-Maghrib, c'est trop tard pour moi. Je ne peux pas faire l'asr. Sauf si je ne peux pas la faire. Je me dis, laisse après. Jusqu'à Salat al-Maghrib, par exemple, je ne peux plus la faire. Donc, si j'entends Salat al-Maghrib, j'ai jusqu'à Salat al-Isha. Et Salat al-Isha, quand est-ce qu'on la connaît? Quand on est tout noir, il fait plus orange, il fait noir. Ça veut dire khlas. C'est sorti le temps de salat. Al-Maghrib, c'est salat Aisha. Mais dans ces trois cas, donc si on fait la salat, dès son premier, dès que je peux, même une femme à la maison, si je peux, la faire à la première heure, au premier moment, c'est beaucoup mieux. J'ai beaucoup plus de hajj que celui qui l'a regardé. Maintenant, reste deux salats. Reste salat al-Isha. Salat al-Isha commence quand il fait noir dehors. Il n'y a plus du coucher du soleil. Là, c'est noir. Maintenant, c'est l'Isha. Quand est-ce que l'Isha se termine? L'Isha se termine à la moitié de la nuit. À la moitié de la nuit, la Isha est terminée. Beaucoup de gens croient que, pas vrai, la vie le plus juste est à la moitié. Qu'est-ce qu'on sait? Comment faire pour savoir quel est le milieu de la nuit? Le milieu de la nuit, c'est pas toujours minuit. Comment faire pour savoir c'est quand la moitié de la nuit? On calcule de Salat al-Maghrib, on calcule combien à quelle heure commence Salat al-Maghrib, Al-Fajr. Atteint 5 heures du matin. Maintenant, je suis à 18. 19h, 20h, 21h, minuit. 4, 5. J'ai trouvé 9h. La moitié de 9h, c'est combien? C'est 4h et du Maghreb. Je compte. J'ajoute 4h et demi. Je disais, le Maghreb, c'est à 18h. Donc, 19h, 21h, 22h, ensuite et demi. Ça veut dire, classe, 22h30 se termine Salat al-Isha. Donc ce n'est pas minuit. Parce que 22h30, c'est la moitié de la nuit. D'après, si le Maghrib est à 18h, et si le Salat al-Subh, c'est à, comme je venais de dire, c'était à 5h du matin. Naam. Voilà pour la réponse, Inch'Allah ta'ala. Oum Abdelhaq, est-ce que tu es avec nous? Naam, toutes les salats, il est très important de les faire à l'heure. Et il est mieux de les faire à la première heure. Naam, salat al-Ash, salat al-Subh, toutes les salats sont très importantes. Salat al-Subh et salat al-Ash. À cause des anges, c'est qui descendent à Salat Subh. Barakallah. Oum Abdelhaq, tafadlali. Pour elle a levé la main. Ça ne fait rien puisqu'elle a levé la main, qu'elle la pose. Oum Abdel Malik Al-Athari, prépare ta question, Inch'Allah. Oum Abdel Malik Al-Athariya, je crois, Al-Athariya. Al-Athari. Abu Abdel Malik, pardon. J'ai dit Oum Abdel Malik. Parce que j'ai l'habitude de voir une soeur qui s'appelle Oum Abdel Malik. Taïf, Abu Abdel Malik Al-Athari. Fais saut. Non. Tamallah, Jazallah khair. Rappelle-moi, rappelle-moi qu'est-ce que je disais, j'ai oublié. Rappelle-moi qu'est-ce que je disais, je me souviens, c'était une chose importante, mais j'ai oublié ce que c'était. Naam, naam. Doit-on dire à Oudou Bdem Shtalajim, Jazakallahu khairan, Abu Abdel Malik. Alors je disais, avant de commencer la salat, on dit. On dit Allahu Akbar. Ensuite on fait le dua, par exemple. Allahu Akbar Kabira. Alhamdulillah Kathira, subhanallah, Bukrat Mouasila, par exemple. Alhamdulillah, Hamdan Kathira, Jim, Min Hamdi, Wanafri, Wanafsi, Bismillah, Rahman, Rahim, on dit le Fatiha. Ensuite, quand on termine Fatiha, on dit Amin. Ensuite, on va aller dans une autre surah. On se suffit à Bismillah, Rahman, Rahim. Et on commence une autre surah. Ici, dans la deuxième, tu commences la deuxième surah, ça se fait aussi, mais ce n'est pas obligatoire. Mais dans la première, pour commencer le Coran, c'est obligatoire. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam, et il est plus savant. Le Bourget 2007, tfaddal. Naam, on est obligé de dire a'oudhu billahi minash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ah, ensuite, quand tu te lèves pour la deuxième raka, tu fais la même chose. Quand tu te lèves pour la deuxième raka, tu te lèves, tu es en bas, tu dis Allahu Akbar, tu te lèves. A'oudhu billahi minash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim et tu commences le Fatiha. Naam, et tu commences le Fatiha. Pour chaque raka, tu le fais inshallah. Pour chaque raka, tu le fais inshallah ta'ala. Naam. طيب البرجي هذه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته savoir si c'est obligatoire pour les hommes de faire la prière à la mosquée et si oui quel est le châtiment de celui qui ne fait pas. Pour les coupures c'est normal, c'est car le paltok est c'est l'information, car je crois que dans toutes les salles il y a ces coupures. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam, je crois que c'est comme ça. Naam, alhamdulillah. Sakina 32, je vais bien, alhamdulillah. Je vais bien, barakallahu fik d'avoir répondu après moi. Je vais bien, je vais mieux, alhamdulillah. Naam, tayyib. En ce qui concerne la prière à la mosquée, elle est obligatoire. Elle est obligatoire pour quelqu'un qui, il n'y avait pas les immeubles et il n'y avait pas les montagnes. Et il n'y avait pas de bruit. Si on était comme ça et appelé à la prière, on pouvait l'entendre. Non. Si on peut entendre quelqu'un, s'il appelle à la prière sans micro, on peut l'entendre. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, il a une voix assez forte et il n'y a pas le vent qui est à contre-champ. Et il n'y a pas les immeubles, les montagnes qui empêchent d'arriver le son. Si on l'entendait, on n'allait pas à la mosquée. Le châtiment, c'est quoi? Le premier châtiment, c'est que après de la maison, pour l'homme qui n'habite pas loin de la mosquée, n'est pas accepté. Ça, c'est le premier châtiment. Deuxième châtiment, c'est quoi? c'est que yani, il a fait un ramoussi péché, mais pas un petit péché. Pas un petit péché. Non. Yani, ça suffit que sa prière n'a pas été acceptée. Et quand quelqu'un, sa prière n'a pas été acceptée, ça veut dire que c'est quelque chose de grave qu'il vient de commettre. Ensuite, la prière à la mosquée, yani, dès qu'on s'y habitue, Allah Ta'ala nous l'a fait aimer dans notre cœur, khlas. Tu ne peux plus faire la prière à la maison. Elle se devient, la prière à la maison, lourde, 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 lourde. Et ensuite, comme a dit Abdullah ibn Mas'ud, yani, ne vient pas à la mosquée et fait la prière à la maison. C'est un des signes. C'est un des signes de l'hypocrisie. C'est pour ça que le hadith que j'ai cité tout à l'heure dans le Bukhari, lorsque Mu'ad ibn Jabal faisait la prière à Aisha, et il l'a rallongé. Il l'a rallongé. Vous avez remarqué, lorsque le sahabi qui avait affaire, lorsqu'il s'est retiré, il a on a dit à Mu'ad ibn Jabal, on lui a dit à quelqu'un qui s'est retiré, il a fait la prière seul. Qu'a dit je crois que c'est un hypocrite que à la mosque, à la maison. Alors qu'en est-il celui qui l'a fait à la mosquée et Abdullah à la maison, pardon. Abdullah ibn Mas'ud a dit ça tarde dire à la mosquée qu'un hypocrite. Connu ou son hypocrisie. En France, est-on obligé de faire tout ça fait à la maison, On l'a fait à la mosquée, même. Si la mosquée est à 100 mètres, à 200 mètres, c'est pas loin. On peut aller à pied, on peut la faire à la mosquée. Mais ça ne veut pas dire, je dis que yani, celui qui ne la fait pas à la mosquée, alors qu'il ne la fasse pas à la maison. Non, je dis pas cela. Je dis que seulement on est obligé d'aller l'affaire à la mosquée, c'est très très recommandé, c'est une obligation et pour celui qui la mosquée n'est pas loin de lui. Imaginez seulement ce hadith qui est dans le Bukhari. Quelqu'un qui ne voit pas, un aveugle qui ne voit pas, et qui avait des difficultés pour arriver à la mosquée, et il est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui excuser, de lui trouver une excuse pour qu'il fasse la prière à la maison. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu peux la faire à la maison. Ensuite, lorsque l'aveugle s'est retourné pour, il a voulu retourner à la maison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, une seconde, tu entends le adhan, tu l'entends? Il lui a dit, oui, je l'entends. Il lui a dit, alors, je te trouve pas d'excuse. Faut que tu viennes à la mosquée. Subhanallah al-Azim. Aveugle. La prière, tu entends l'adhan, tu dois venir. Qu'en est-il de celui qui n'est pas aveugle? Entre parenthèses, les ulama ont dit ici aveugle, la condition qu'il trouve quelqu'un qui le guide ou bien qu'il connaisse le chemin. Ce n'est pas l'aveugle qui sort dans la rue et qui. Parce qu'il ne connaît plus les chemins, il va se perdre. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Et si on n'est pas en rapport avec le cours, je m'excuse, mais j'ai du mal à trouver des réponses à mes questions. Je voulais savoir si je fais les ablutions et qu'ensuite un produit sur mes cheveux, et je mets un produit sur mes cheveux et que je mets un foulard. Est-ce que je peux refaire les ablutions de toute la journée sur ce foulard, même si je n'ai pas enlevé le produit? Et pareil, je voulais savoir si j'ai le droit de m'éclaircir les sourcils. Ça y est, m'éclaircir les sourcils, je n'ai pas compris ce que ça veut dire. M'éclaircir les sourcils, je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Est-ce que c'est les enlever ou là, j'ai pas compris. Quand tu as repos sur la question, les changer, c'est-à-dire elle les enlève, elle met d'autres. Comment elle est, la couleur. Moi je croyais qu'elle les enlève et elle va mettre d'autres. Alhamdoulilah qu'elle change seulement la couleur. T'as une seconde pour la réponse. Les rendre plus clair et ça. Non, une seconde avant de répondre. Je voulais dire une chose. Non, je voulais dire la sœur qui m'a m'a demandé la foi passée. La sœur qui m'a demandé la foi passée, elle a pris des cours d'arabe. Si elle est là, inshallah ta'ala, elle me fait signe. Si elle est là, inshallah ta'ala, elle me fait signe. Bon, quand tu as quelque chose sur la tête, et cette chose qui est difficile à enlever, quand par exemple elle vient de mettre le henné si vous voulez un produit, celle-là, elle peut essuyer seulement sur le foulard. Il n'y a pas de sang. Celle-là, elle peut essuyer seulement sur le foulard. Amallah, j'ai pas compris ça. Donc, une femme, et même un homme, s'il a mis quelque chose sur sa tête, la zone contre-arme qui est entrée. Mais si elle sait que yani, ce produit doit tarder sur sa tête et que ça risque, la deuxième prière risque de rentrer, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle fait les ablutions normales. Quand elle arrive à la tête, elle essuie au-dessus du foulard. Elle essuie au-dessus du foulard, Inch'Allah ta'ala. Et en ce qui concerne la vie, pour changer la couleur des sourcils, Oum Souleymane, est-ce qu'il y a le sang? Est-ce qu'il y a le sang? S'il y a le sang, je réponds. Amla, il y a le sang. Naam. L'homme a le droit de changer la couleur de ses sourcils, a le droit avec condition, une condition. Et aussi a le droit de changer la couleur de sa tête, de ses cheveux, bien sûr, de l'épaule. Quoi la condition? C'est que elle ne fait pas ça pour ressembler aux kafirettes. Mais elle fait ça à cause, par exemple, de son mari ou à cause de son bélier pour les autres sœurs, etc. Mais si elle le fait, kafirettes qui font et elle veut ressembler aux kafirettes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Moula a un groupe, il est des leurs. Il devient des leurs. Naam. Et c'est très grave. Mais si elle le fait à cause de son mari, ou à cause de ce qu'ont répondu les grands savants, que c'était possible. Allah subhanahu wa ta'ala, Alam. Tayyib. سلف الدين تفضل سلف الدين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سكينة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ si une personne néglige volontairement une prière parce qu'il est fatigué et meurt dans la nuit, est-il considéré kafir ou comme un acte de kouf, ou tout simplement un musulman désobéissant? Et s'il y a divergence entre les savants, quel est l'avis le plus fort? Sah, il y a divergence entre les savants, car certains des salafs, avaient l'avis que quiconque ne fait pas une seule salat, jusqu'à ce que son heure sorte, est devenu kafir. Naam. Une seconde, Inch'Allah. Abou Haman a dit, je voudrais que tu précises au chef que les sœurs cherchent à faire un dégradé de couleur du sourcil, et c'est ça, la sœur en veut dire. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire un dégradé de couleur. Non, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Moi j'ai répondu, si elle voulait teindre ses sourcils, normalement, une teinture normale, ce n'est pas dégradé. Il ne sait pas encore qu'ils savent dire dégradé dans les couleurs. Al-Muhim, la vie, si quelqu'un néglige volontairement hier parce qu'il est fatigué et meurt dans la nuit, Inch'Allah ta'ala, qu'il n'est pas kafir. C'est la vie le plus sûr. Parce qu'il faisait la prière, mais celui qui est kafir, c'est celui qui ne l'a pas fait du tout et il est mort. Mais celui qui fait la prière, il la laisse de temps en temps, il a laissé une prière, alors qu'il voulait, il avait l'intention de faire l'autre, Inch'Allah ta'ala, il n'est pas kafir pour joindre avec et tous les autres hadiths. Inch'Allah ta'ala. Mais quelqu'un qui est fatigué, il doit faire sa prière, Inch'Allah ta'ala. Il doit faire et dormir, Inch'Allah ta'ala, dormir ensuite à l'aise, Masha'Allah. Maintenant, s'il est fatigué à mourir, au moins qu'il la fasse assez. Au moins qu'il la fasse, je ne sais pas, sur son flanc, s'il est vraiment fatigué à mourir. Il est fatigué au point où il ne peut pas se lever. Et ne pas la laisser. Un vrai croyant, quelqu'un qui est sincère, Inch'Allah ta'ala, ne laisse jamais sa salat tant qu'il est éveillé et il est conscient. Comme j'ai dit, s'il ne peut pas, il l'a fait assis. S'il ne peut pas assis, il l'a fait sur son flanc. Mais il ne laisse pas une salat comme ça jusqu'à ce que s'il a dormi, il ne s'est pas réveillé. Non. Inch'Allah ta'ala. Salafi, tafadhal. Fika barakallah. Oui, Salafi, pourquoi il est descendu en bas? Concernant le Hajr, des salats effectués dans les mosquées sacrées. Je voulais savoir si les salats surérogatoires entrent dans le hadith sacré. Je voulais savoir si les salats surérogatoires âment. Cette question, ou plutôt la réponse, là aussi, Les ulama ont divergé. Mais l'avis le plus sûr dans lequel, ou bien avec lequel je suis, Inch'Allah ta'ala, convaincu, c'est que tout rentre. C'est-à-dire même les nawafil surérogatoires, Inch'Allah ta'ala, rentrent. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Naam. Pour Ukht Salafia, Inch'Allah ta'ala, pour Ukht Salafia, je réponds, je dis Inch'Allah ta'ala. Oum Souleymane du 13, Cheikh, désolé, ma sœur insiste, c'est un, sur ne sera pas une fitna. Si elle l'éteint avec une teinture, de façon à ce qu'elle attire le regard et que ça soit une fitna, elle ne peut pas, même, si elle l'éteint. C'est un peu... comme le wasmo, le henné pour la femme, ce n'est pas interdit, mais c'est interdit pour une femme de montrer ses mains avec le henné. C'est interdit pour une femme de montrer les mains aux gens, aux hommes avec le henné. Donc si elle met le henné dans ses mains, elle doit mettre des gants. C'est pour ça que maintenant, si elle l'éteint avec une teinture qui n'attire pas le regard, de façon à ce que on la voit normale dans la rue, yani c'est faisable. Mais si elle teint avec une teinture qui, à chaque endroit où elle passe, elle attire le regard des gens, naam. Ça devient une fitna pour les hommes, et par conséquent, ça devient haram, Inch'Allah ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Siyah, tafadhal. Siyah. Quelqu'un me dit que pour la teinture des pour la teinture des sourcils, elles font quelqu'un me dit, elle fend comme si elle épilait le sourcil. C'est-à-dire, elle teigne le sourcil en blanc, en bas, et laisse une couleur foncée, une partie du sourcil en haut. Comme si on voyait le sourcil épilé. Et de plus, elle sort sans sitar. La question est complète. Donc, est-ce qu'il y a 12? Non. Je ne vois pas pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala qui a interdit à la femme d'épiler les sourcils, je ne vois pas pourquoi je vais faire quelque chose en sorte de faire croire aux gens que j'ai épilé. La hawla wa la quwwata illa billah. Je ne vois pas comment. Allah subhanahu wa ta'ala m'a interdit à la femme d'épiler les sourcils. Et maintenant, moi, je vais faire une teinture. Et la teinture, j'ai dit que c'était possible si ce n'était pas une fitna. C'était une teinture normale. Mais maintenant, je ne vois pas pourquoi, avec ma teinture, je vais faire croire aux gens que j'ai épilé mes sourcils. Subhanallah ta'ala. Au point que peut-être un homme va passer devant toi et va dire La'natullah ala cette femme. La'natullah alayha la épilé. Alors que toi, tu n'as pas épilé. Mais tu as fait ce que je viens de comprendre, c'est-à-dire dégrader de façon à faire croire aux gens que tu as épilé alors que toi, tu n'as pas épilé. Tu ne vois pas? Vous savez que se ressembler, se faire ressembler à quelque chose de haram, c'est haram. Naam. Moi, maintenant, l'eau n'est pas interdite à boire. Mais je vais dire, attends, je vais mettre de l'eau dans une bouteille de vin. Et je vais boire. Quand je vais boire, qu'est-ce que j'ai bu? J'ai bu de l'eau. Mais quelqu'un qui va me voir, il va me dire peut-être, la'anatullah, allez, celui-là est en train de boire de l'alcool. Ceux qui font les péchés. C'est pour ça que il n'est pas possible, inshallah ta'ala, de faire cette chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, ta'alam. On est dans la salle. Naam, c'est qui Oum Yassin, Oum Suleyman? C'est qui Oum Yassin et qu'est-ce qu'elle veut? Tayyib. Siyah a dit, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que la tahiyyatou, le masjid, doit-on la faire à chaque fois qu'on rentre dans le masjid, par exemple, si on sort pour aller aux toilettes, puis on rentre au masjid? Sachant que je suis dedans, à la maison, puis je pars en voyage directement. Dois-je prier l'as avant de partir? Ou dois-je attendre? Non. À chaque fois qu'on sort de la mosquée et on rentre, si on va aux toilettes ou là, si on va n'importe où, à chaque fois qu'on franchit la porte où on doit faire la prière, on doit, inshallah ta'ala, refaire tahiyyatul masjid. C'est la vie, inshallah ta'ala, le plus fort. Tu es sorti, tu es revenu. À chaque fois, inshallah ta'ala, tu dois refaire tahiyyatul masjid bi idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Maintenant, pour l'autre question, sachant que je prie le dhuhr à la maison, puis que je pars en voyage directement, dois-je prier l'asr avant? Ça dit ressembler le dhuhr 4 et l'asr 4 ou des. À l'endroit où tu veux voyager, quand tu vas arriver là-bas, ce ne sera pas l'asr. Le asr, si tu le fais et que tu peux le faire quand tu arrives là-bas, ou bien tu as le temps pour le faire en route, alors tu le laisses, inshallah ta'ala, pour le faire en route, ou bien pour le faire quand tu arrives vers la ville où tu veux y aller, inshallah ta'ala. Pour les cours d'arabe, j'ai demandé à quelqu'un qui est un talibouin, pas un savant, on a discuté sur cette question, et il a dit que, inshallah ta'ala, c'était possible si ça restait, c'est-à-dire seulement dans le besoin, c'est-à-dire que tu parles seulement quand tu dois parler et que tu ne changeais pas de voix. Hein? Certaines femmes essayent d'adoucir leur voix pour faire la fitna. Mais si tu parles normalement, quand tu parles avec ton père et ta mère et tes frères, tu parles normalement et tu parles seulement dans le besoin, il a dit que, inshallah ta'ala, c'était possible vu que la voix de la femme n'est pas aura. La règle, c'est que la voix de la femme n'est pas aura et que ici elle est en train de demander quelque chose d'obligatoire, c'est-à-dire arabe pour apprendre le dîme, inshallah ta'ala. Naam. Pouzi 93, tafadhal. Et après la deuxième prosternation du roku. Prosternation du roku. La deuxième prosternation du roku. Et j'ai pas bien compris. Doit-on lever les mains quand on dit Allahu Akbar après la deuxième prosternation du roku? Après avoir dit Sami Allah li min hamida. Je répète. On lève les mains quand on dit Allahu Akbar pour commencer. Takbir ihram. Je dis Allahu Akbar et je lève les mains. Ensuite, je lis, etc. Je termine la lecture. Je dis Allahu Akbar, je veux me prosterner. Pardon, c'est pas se prosterner. Je vais faire le rukou ici. Je vais faire le rukou. Qu'est-ce que je dis? Je dis Allahu Akbar, je lève les mains. Et je fais le rukou, je dis Subhan Rabbil Azim. Je vais dire Allahu Akbar pour me relever et dire Sami Allah li min hamida. Ici, je lève les mains, je dis Sami Allah li min hamida. Je dis Allahu Akbar, je dis pas Allahu Akbar ici, je dis Sami Allah sans dire Allahu Akbar, Sami Allah li min hamida. Et je lève mes deux mains avec. Ensuite, je me prépare à descendre pour me prosterner et dire Allahu Akbar. Ici, si je lève mes mains, ça se fait. Si je ne lève pas, ça ne se fait pas. Je peux lever et je peux ne pas lever. Mais les trois endroits où c'est conseillé, c'est quoi? C'est quand? Quand je dis Allahu Akbar pour commencer la salat, quand je dis Allahu Akbar pour descendre, faire l'inclination, et quand je dis Allahu Akbar pour dire Sami Allahu liman hamida. Maintenant, on vient de m'apprendre qu'il est plus de 23h30. Ensuite, moi aussi, j'ai quelque chose à faire. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, nahar, sept, mais peut-être vendredi, Inch'Allah Ta'ala, peut-être, s'il n'y a pas les repères de la sunna, si je les gêne pas, peut-être après les repères de la sunna, hein, je ferai, Inch'Allah, des questions-réponses. Seulement 2 heures de questions-réponses pour vendredi. Inch'Allah. Subhanak Allahumma hamdik, shahadu an la ilaha illa ant, wahdaka la sharika.